Deutsche Welle, Ökonomie et Développement.
Les décisions du gouvernement sénégalais vont-elles pénaliser les chauffeurs de bus? Pour diminuer le nombre de morts sur les routes du pays, les transports interurbains ne pourront plus circuler la nuit. Mais pour les professionnels, ce sont plutôt l'état des routes et la corruption qui sont en cause. Et puis que représentent les classes moyennes africaines? Une conférence sur ce thème a lieu ce jeudi à l'IFRI à Paris. Nous serons en ligne avec une des chercheuses de l'Institut. C'est Claire-Marie Gostman au micro. Bienvenue. Au Sénégal, l'année 2017 a été marquée par de nombreux accidents, comme au mois de novembre où 25 personnes ont été tuées dans le nord du pays dans une collision entre un mini-car et un bus local. Mais vouloir interdire la circulation de nuit ne changera rien sur les chauffeurs et notamment ceux des bus horaires. Un dossier de notre correspondant à Dakar, Mamadou Laminba.
Car rapide, Ndiaganjaï, cette place, bus, il existe une variété de véhicules de transport au Sénégal. Certains Sénégalais préfèrent voyager par bus entre les différentes régions. Ces véhicules desservent toutes les destinations du pays. Younous Diata, chef de la gare des bus de Grand Dakar, avance les raisons de leurs offres.
Nous le faisons pour aider les populations. Certains voyageurs ont beaucoup de bagages. Ils ont des difficultés pour aller jusqu'à la gare centrale. C'est pour ça qu'on s'est rapproché d'eux.
Boubacar Diame, syndicaliste à la gare de Grand Yoff, confirme les privilèges des bus.
Nos véhicules vont dans des endroits les plus reculés du pays, que ce soit le Fouta, Velingara, Kolda ou Sédio. Quand un passager débarque, il est obligé de payer entre 2000 et 2500 pour arriver à destination, alors que les horaires vous amènent jusque là-bas.
Les voyageurs y trouvent leur compte. Afan Bodjan, natif de Ziguinchor, est venu acheter un ticket. Pour lui, les prix des bus sont plus accessibles comparés aux autres véhicules.
Maintenant, avec Banjul, c'est 8000 francs. Mais auparavant, quand il partait par Senoba, c'est 6500. Donc c'est plus avantageux. Avec les horaires, tu peux faire une commission sans problème. Tu es là, tu veux envoyer quelque chose au village, tu l'envoies sans problème. Mais avec les gares routières, c'est très difficile. On ne l'accepte pas.
Ces avantages cachent mal des inconvénients. Il y a beaucoup d'accidents sur les routes du Sénégal. L'État pointe du doigt les bus. Jules Aubin Sagnan est le secrétaire général du ministère des Transports terrestres.
La plupart des accidents les plus mortels qui font au-delà de 10 morts, ce sont des accidents qui se produisent ou bien tard dans la nuit, vers 1h, 2h du matin, ou bien tôt le matin, vers 5h, 6h du matin. La raison est simple, c'est la fatigue du conducteur.
Les acteurs du transport contestent cette position de l'administration. Younous Diata argumente.
Les accidents se produisent le matin, l'après-midi et le soir, ça dépend. Quand ça arrive, on n'y peut rien. Ce ne sont pas les voyages nocturnes qui causent les accidents. L'accident le plus mortel qui a eu lieu à Tamba s'est produit en plein jour.
Boubacar Diame, lui, pointe du doigt la configuration des routes sénégalaises.
Les routes sont défectueuses. Aucun entrepreneur ne peut garantir une route pour 10 ans parce que les camions sont surchargés et ils dégradent les routes.
Malik Diop, chauffeur de bus, confirme les malformations des routes.
Les routes sont étroites, les ravins aussi sont profonds. Même quand on voit un véhicule en difficulté dans l'autre sens, on ne peut se garer pour l'éviter parce que les trottoirs sont réduits.
Autre cause des accidents, l'état des véhicules de transport. Boubacar Diame est convaincu que les visites techniques sont arrangées.
Il n'y a pas de visite technique, tout s'arrange. Vous connaissez quelqu'un au centre de contrôle et vous lui donnez le numéro d'immatriculation de votre véhicule au téléphone. Une fois arrivé, il vous signe le papier et vous repartez. Quand on me dit que certains véhicules ont des visites techniques, je dis que c'est faux.
Le gouvernement reconnaît ce manquement. Jules Aubin Sagnan invite gendarmes et policiers à plus de rigueur.
Tous les véhicules qui doivent subir le contrôle technique ne passent pas au contrôle technique. Et ça, maintenant, c'est le travail des forces de sécurité. Il ne s'agit pas de demander au monsieur, oui, est-ce que vous déposez d'un permis de conduire, est-ce que vous avez la carte grise. Il faut qu'on renforce le contrôle pour vérifier effectivement si le véhicule est doté d'un certificat d'aptitude de contrôle technique.
L'interdiction de circuler des bus à partir de 22 heures n'est pas encore effective. Déjà, syndicalistes et chauffeurs s'y opposent. Boubacar Diame pense que tout le monde ne peut pas circuler dans la journée.
Nous avons espoir et faisons confiance à ce gouvernement. Mais s'ils veulent préserver des emplois, que les entreprises continuent à tourner, il faut que les bus circulent la nuit. Imaginez que tout le monde roule dans la journée avec ces embouteillages. Personne ne va travailler.
Malik Diop souhaite que les transporteurs privés continuent à circuler la nuit.
L'État ne peut pas employer tout le monde, c'est le privé qui développe un pays. Chacun se retrouve mieux dans ses propres affaires. Les privés aussi doivent travailler.
Selon les statistiques de la Gendarmerie nationale, environ 2300 personnes sont mortes sur les routes entre 2013 et 2017. Imprudence des conducteurs, non-respect des règles, corruption et défectuosité matérielle sont les principales causes. Mamadou Lamine Ba, à Dakar, pour la Deutsche Welle.
Millions d'Africaines et d'Africains feraient partie de la classe moyenne, selon la Banque africaine de développement. Ils gagneraient entre 2 et 20 dollars par jour, une fourchette très large qui recoupe de nombreuses réalités selon que l'on se trouve en Afrique du Sud ou au Niger. Mais une caractéristique ressort, ces personnes jonglent entre économie formelle et informelle, nous dit Clélie Nallé. Cette chercheuse au programme Afrique subsaharienne de l'IFRI s'est notamment intéressée aux salariés des télécommunications à Kinshasa.
Alors leur métier officiel, qui peut être salarié du privé, fonctionnaire, entrepreneur ou encore commerçant, ce métier officiel leur permet de disposer d'un revenu stable chaque mois et les activités informelles viennent en complément. C'est cette pluriactivité qui leur permet de dégager un revenu supplémentaire de manière plus irrégulière, mais il s'agit souvent de sommes conséquentes. Alors ça peut être des activités de commerce ou encore d'élevage. Je peux donner l'exemple d'un enseignant à Niamey qui lui doublait son salaire en vendant des potables au sein de son quartier le soir et le week-end. Ou encore un entrepreneur éthiopien qui élève 450 poulets en batterie dans un cabanon dans son jardin. Et c'est une activité dont il dégage des revenus conséquents. Donc ces revenus générés par l'informel permettent de sécuriser ou d'améliorer la situation de ces classes moyennes qui peuvent consommer, mais surtout épargner et réaliser des projets d'investissement.
Vous avez notamment été en RDC, vous avez étudié des entreprises de télécommunications à Kinshasa. En quoi leur position est intéressante dans la société congolaise ?
Effectivement, en RDC, dans une situation qui, a priori, est très peu favorable à la formation de classe moyenne. On a un environnement de grande pauvreté. 7 ménages sur 10 sont pauvres, selon l'Institut national de la statistique, une activité économique qui est largement dominée par le secteur informel et un environnement politique caractérisé par une faillite de l'État. Donc, est-ce que ces classes moyennes vont finalement pallier à certaines faiblesses de l'État ? Dans un sens, oui, mais de manière assez limitée. Si on regarde la redistribution des richesses, elles vont surtout aider la famille proche et pour des causes qu'elles considèrent importantes comme l'éducation ou la santé, par exemple. Ce qui est néanmoins certain, c'est que ces classes moyennes ne se substitueront pas aux États africains.
Et ce que j'ai lu aussi, c'est que tous ne se considèrent pas dans la classe moyenne. Ça reste un petit peu une notion floue à définir quand même.
Ce qu'on a constaté, c'est que dans la plupart des pays, en fait, les personnes que l'on pourrait considérer comme classe moyenne se définissent plutôt comme par la négative, comme ni riches ni pauvres. Elles peuvent pas se permettre, tous les extras se permettent les riches. Elles se situent vraiment très loin de ces riches, mais par contre pas pauvres parce qu'elles peuvent satisfaire leurs besoins de base, se nourrir, se loger. Le terme qui correspondrait le mieux à la situation, finalement, je pense que c'est le terme de l'entre-deux.
Ce qui est beaucoup salué par les grands organismes internationaux, c'est le fait que ces classes moyennes sont des moteurs pour la consommation, que ça produit sur l'économie locale. Tirer aussi les ressources vers le haut. Est-ce que la consommation de ces classes moyennes, est-ce que ça peut être un moteur pour les entreprises africaines locales, plutôt friandes de produits d'importation qui, là, ne rapportent pas grand-chose à leur pays ?
les études qu'on a menées sur les classes moyennes et la consommation, elles montrent que ces groupes vont diversifier les lieux d'achat afin de trouver les produits au meilleur prix. Par exemple, réaliser des achats en gros une fois par mois dans des épiceries spécialisées, puis aller chercher les fruits et légumes sur le marché au meilleur prix une à deux fois par semaine, et aussi fréquenter les supermarchés. Alors, cette question des centres commerciaux, elle est très présente. On associe souvent l'image de la classe moyenne au mall, par exemple. Alors, ce sont des centres commerciaux qui sont effectivement fréquentés par les classes moyennes, mais qui viennent en fait en complément de tout un autre type de consommation plus traditionnelle, entre guillemets. Donc souvent, ces supermarchés sont fréquentés pour les produits frais qui sont mieux conservés, ou de produits spécifiques comme ceux pour les enfants en bas âge, ou encore réaliser ce qu'elles appellent souvent les extras, donc des achats plaisir. Les situations sont assez variées en fonction des pays. J'ai réalisé récemment une étude sur les nouveaux centres commerciaux à Abidjan. L'étude montre que ces lieux sont fréquentés par les classes moyennes aussi, car ils sont considérés comme agréables. Elles peuvent y passer du temps, prendre un café, sortir en famille et profiter des espaces de jeu dédiés aux enfants, par exemple. Et elles vont y acheter aussi bien des produits importés que des produits locaux. Et je dirais même, elles vont y acheter surtout des produits locaux. On constate de manière générale que pour ceux qui ont des modes de vie et de consommation qui sont assez occidentalisées, les produits locaux continuent de être très importantes. Donc, toute la consommation de ces classes moyennes peut être un moteur pour les entreprises africaines locales.
Pour réentendre ce numéro d'économie et développement, allez sur notre site dw.com/français, rubrique médiathèque. Merci pour votre écoute, au revoir et à la semaine prochaine.